J'en viens maintenant à la conférence du jour et à la présentation de Gilles Saint-Paul, donc, qui va nous parler de progrès technique et inégalité. Il est ancien élève d'école polytechnique, 82-85, ingénieur des ponts et chaussées, c'est la maison d'en face, hein, normalement. Maintenant, c'est à Marne-la-Vallée, mais la maison d'origine est en face. Il a un DEA de l'Université Paris 9 en mathématiques appliquées aux sciences économiques. Il a étudié ensuite au Massachusetts Institute of Technology, au MIT, en économie. Et depuis 1994, il est habilité à diriger des recherches à l'École des hautes études en sciences sociales. Ses domaines de recherche sont la croissance économique, la distribution des revenus, l'économie politique, le marché du travail, chômage et politique fiscale. Il a été chercheur au Delta et au CERAS à Paris, 90-97. Il a été professeur à l'Université Pompeu Fabra de Barcelone de 97 à 2000. Et depuis septembre 2000, il est professeur à l'Université des sciences sociales de Toulouse. Il a publié de nombreux articles dans diverses revues économiques internationales et plusieurs ouvrages, parmi lesquels on cite deux, mais qui sont en langue anglaise, The Political Economy of Labour Market Institutions, à Oxford University Press, en an 2000, et Dual Labour Markets, A Macroeconomic Perspective, MIT Press, 1996. Là, il va nous donner sa conférence, bien sûr, en français, pendant une cinquantaine de minutes, et ensuite, vous pourrez lui poser des questions. Merci.
Je vous remercie de m'avoir invité à donner cette...
Ça va pas ? Je continue ?
Je vous remercie de m'avoir invité à venir donner cette conférence sur un sujet qui, je dois l'avouer, est nullement facile, à savoir progrès technique et inégalité. Alors, il existe de nombreux exemples historiques et même des exemples récents d'une opposition plus ou moins violente au progrès technique. Par exemple, en ce qui concerne la période récente, on peut citer les difficultés de l'introduction de la carte à puce dans la sécurité sociale française, les destructions de cultures transgéniques, ou encore... dans les années 70, la résistance des dockers britanniques à l'utilisation des conteneurs dans les ports de Grande-Bretagne. Dans le chapitre 15 du Capital de Marx, qui est consacré aux machines, il y a de nombreux exemples de telle opposition au progrès technique. Par exemple, au XVIe siècle, dans le but de préserver des emplois, le maire de Dantzig fit secrètement assassiner l'inventeur d'une machine textile. Et donc ça nous conduit à poser la question suivante, qui est le point de départ de ma conférence. Le progrès technique serait-il générateur de conflits ? Alors, comme on le voit dans ces exemples, le progrès technique impose des coûts à des groupes spécifiques d'individus qui doivent se reconvertir. Par exemple, quand on est docker, le fait qu'il y ait des conteneurs qui soient introduits, peut poser des problèmes à cette catégorie de travailleurs. Cela dit, je voudrais un peu ouvrir la perspective et me demander si, plus généralement, une large fraction de la population pourrait être lésée par le progrès technique, par exemple parce qu'elle en serait exclue ou parce qu'elle verrait ses revenus baisser. Et dans ce cas, les pouvoirs publics doivent-ils s'opposer à l'introduction de nouvelles technologies ? Alors, pour répondre à ces questions, je vais un petit peu regarder certaines données, mais je vais également m'appuyer sur le raisonnement économique. Si on regarde les données sur longue période, c'est-à-dire sur les 200 dernières années, qui sont à peu près, qui est à peu près la période sur laquelle on a des données économiques fiables, eh bien, il y a deux faits saillants. Le premier fait, c'est que le niveau de vie a littéralement explosé. Mesuré par le PIB réel par tête, par le produit intérieur brut par tête, il a été multiplié par plus de 10. Ça se traduit par le fait que les gens vivent beaucoup plus longtemps qu'il y a 200 ans, qu'ils ont des téléphones portables, et ainsi de suite. Ce que l'on sait aussi, c'est que ce sont l'accumulation des connaissances et les innovations technologiques qu'elle permet, qui sont la cause de cette prospérité. En effet, la croissance fondée sur simplement l'accumulation de capital, c'est-à-dire qui est due à l'épargne et à l'investissement, s'épuise rapidement et ne permet pas un tel accroissement du niveau de vie. Donc, l'effet de premier ordre du progrès technique sur longue période, c'est de permettre un accroissement considérable du bien-être au sein de la population. Maintenant, sur cette même période, que se passe-t-il si on regarde les inégalités ? Eh bien, on trouve que les inégalités au sein d'un même pays se sont réduites entre 1820 et 2000. Cependant, les inégalités entre pays, elles, ont augmenté. En ce qui concerne ce dernier phénomène, sur lequel on pourrait discuter assez longtemps, mais ce n'est pas l'objet de ma conférence, ce dernier phénomène reflète probablement le contraste entre les pays développés, comme les pays européens, les États-Unis, le Japon, et un certain nombre de pays africains qui, eux, ont vécu une stagnation certaine. Par ailleurs, les économistes qui ont étudié le phénomène de la convergence entre pays ont montré empiriquement que si un pays adopte les mêmes politiques économiques qu'un autre pays, eh bien, l'écart de revenus entre ces deux pays va avoir tendance à se restreindre à une vitesse certes assez lente, mais cet écart va se restreindre. Ceci me conduit à conclure qu'il serait abusif d'incriminer le progrès technique en ce qui concerne la hausse de l'inégalité entre les pays. Et en ce qui concerne donc l'inégalité au sein d'un pays donné, ce qu'on observe sur longue période, pour revenir à cet aspect des choses, c'est qu'elle a eu tendance à se restreindre. Donc, ce que nous suggèrent les données historiques sur longue période, c'est qu'il n'y a pas de raison de penser a priori que le progrès technique est générateur d'inégalités, puisqu'il a été le principal facteur de la hausse considérable du niveau de vie, et qu'en même temps, on n'a pas observé que l'inégalité a augmenté. Alors, cela étant, on pourrait s'arrêter là et dire que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais ce n'est pas tout à fait le cas, parce que depuis le début des années 70, aux États-Unis, on a observé un phénomène que l'on peut considérer comme inquiétant, à savoir la hausse de l'inégalité salariale. Alors, là, j'ouvre une parenthèse. L'inégalité n'est pas un concept totalement évident à mesurer, et en particulier, si on regarde l'inégalité des salaires, c'est quelque chose qui nous apprend quelque chose sur la rémunération des différentes qualifications au sein du marché du travail, mais par contre, ça nous apprend moins de choses sur les disparités de bien-être entre les gens, parce que les gens vivent dans des ménages, ils peuvent ajuster le nombre d'heures qu'ils travaillent au cours d'une année pour répondre aux changements dans les salaires auxquels ils font face. Ce que je vais discuter à partir de maintenant, c'est essentiellement l'inégalité salariale, c'est-à-dire quelque chose qui doit s'interpréter comme l'inégalité dans la propension à rémunérer les divers niveaux de qualification et plus généralement les divers individus par le marché du travail. Donc, si on regarde cet indicateur, eh bien, entre 1970 et 1989, le salaire médian aux États-Unis a baissé de 5%. Et ceci malgré une croissance du PIB par employé de 12% au cours de cette même période. Maintenant, si l'on regarde les salaires horaires les plus élevés, le dernier décile, donc les travailleurs les mieux payés, eh bien, leur salaire a augmenté de 15% au cours de cette période. Tandis qu'en ce qui concerne les salaires les plus bas, le premier décile, eh bien, ils ont baissé de 25% au cours de cette période. Tout cela en termes réels. Alors, ces chiffres que je viens de citer proviennent d'une étude de John Murphy et Pierce, publiée en 1993. Depuis cette date, il semble que la baisse des salaires au bas de la distribution des revenus ait été enrayée. Cela étant, en ce qui concerne le haut de la distribution des revenus, eh bien, on continue à observer l'explosion des salaires les plus élevés. Ainsi, en 1998, les 5% des salaires les plus hauts, toujours aux États-Unis, étaient 9 fois plus élevés que le médian, alors qu'en 1980, ils étaient seulement 3 fois plus élevés que le médian. Par ailleurs, ce qu'on a observé, c'est que cette hausse de l'inégalité salariale a affecté toutes les dimensions de la qualification. C'est-à-dire que non seulement on rémunère plus l'éducation, les gens qui ont fait plus d'études ont une prime salariale plus élevée que par le passé, mais on rémunère également plus l'expérience, les gens qui ont travaillé plus longtemps ont également une prime plus élevée, et enfin on rémunère plus, disons, les composantes non observables des capacités individuelles. C'est-à-dire qu'on trouve que si l'on filtre la part de l'inégalité qui est expliquée par les caractéristiques observables comme l'éducation et l'expérience, eh bien, il reste une part de l'inégalité qui n'est pas expliquée par ces caractéristiques. Et cette composante a également augmenté au cours des 3 dernières décennies. À partir de cette observation, on s'est posé la question de savoir quelles sont les causes de cette hausse de l'inégalité. Et les économistes qui ont étudié le problème ont tout de suite proposé 2 explications qui ne sont pas incompatibles l'une avec l'autre, mais qui méritaient d'être testées. La première explication, qui peut-être serait une des plus populaires dans certains cercles en Europe, serait que si l'inégalité a augmenté, c'est à cause de l'ouverture au commerce international et donc à cause de la concurrence des pays du tiers-monde, ou plus précisément des nouveaux pays industrialisés, dans lesquels il y a une main-d'œuvre peu qualifiée abondante. Donc d'après cette hypothèse, l'ouverture au commerce international et la concurrence des pays du tiers-monde, où donc la main-d'œuvre peu qualifiée est abondante, entraînerait une baisse du salaire des moins qualifiés aux États-Unis, ce qui serait le contre-coup des difficultés éprouvées par les industries américaines employant ces travailleurs. Donc ça serait la première hypothèse. La deuxième hypothèse est celle qui considère que la hausse de l'inégalité provient de biais dans le progrès technique. D'après cette hypothèse, on aurait introduit de nouvelles technologies qui pourraient se substituer au travail moins qualifié, et ceci réduirait la demande pour le travail moins qualifié. Et par ailleurs, dans la mesure où les nouvelles technologies sont complémentaires avec le travail qualifié, eh bien elles auraient également un effet direct sur la demande de travail qualifié, ce qui conduirait ainsi à une hausse de l'inégalité, à une hausse du salaire des qualifiés, et à une baisse du salaire des moins qualifiés. Laquelle de ces hypothèses est la bonne ? Bien entendu, il se peut que les deux phénomènes aient lieu de manière concomitante. Cela étant, on a regardé de manière empirique quelle pourrait être la bonne hypothèse, et si je puis dire, le consensus penche plutôt pour l'hypothèse du progrès technique biaisé. En effet, l'hypothèse du commerce international comme cause de l'inégalité ne cadre pas avec un certain nombre de faits. Si cette hypothèse était correcte, on aurait observé que le prix relatif des biens qui sont intensifs en travail peu qualifié, donc le prix des biens qui utilisent beaucoup de travail peu qualifié, aurait baissé dans les pays développés, parce que ces biens étaient en concurrence avec, étaient mis en concurrence avec des producteurs des pays nouvellement industrialisés ou du tiers-monde ayant des coûts nettement plus faibles. Or, on n'a pas observé ce phénomène, ce qui suggère que, malgré la réalité de ces progrès du commerce international, eh bien, cela n'a pas eu un impact quantitatif fort sur la demande de travail de non-qualifiés et sur la demande de biens intensifs en travailleurs non qualifiés aux États-Unis. Bon, par ailleurs, il existe un autre test de cette hypothèse qui consiste à regarder comment évolue la composition de la main-d'œuvre entre qualifiés et non qualifiés au sein d'une industrie donnée. Si une économie est mise en contact et en concurrence avec le reste du monde, et si la main-d'œuvre peu qualifiée est plus abondante dans le reste du monde, en principe, ça devrait faire baisser donc, les salaires des peu qualifiés. Et on s'attend à ce que, à technologie donnée, chaque entreprise ou chaque industrie embauche plus de non-qualifiés relativement aux qualifiés, puisque ce qui se passe, c'est qu'on a la même technologie, on observe qu'il est moins coûteux qu'avant d'embaucher des non-qualifiés pardon, plutôt que des qualifiés. Donc on devrait s'attendre à un changement de la composition de la main-d'œuvre au sein d'une industrie donnée qui devrait favoriser les non-qualifiés, parce que les non-qualifiés sont devenus moins coûteux. Or, on n'a pas non plus observé ce phénomène. Et donc, on peut en conclure que si l'ouverture au commerce international est un phénomène bien réel, eh bien, on peut difficilement penser que c'est ça qui explique la forte augmentation de l'inégalité salariale aux États-Unis au cours des années 70, depuis le début des années 70. Donc, à partir de là, l'idée qui s'est imposée, c'est que le progrès technique est responsable de la hausse de l'inégalité qu'on a observée aux États-Unis au cours de ces décennies. Alors, avant de discuter un peu plus systématiquement cette hypothèse, je voudrais mentionner deux choses. Bon, d'une part, il existe une troisième hypothèse qui n'est pas à négliger, qui est celle d'après laquelle la hausse de l'inégalité s'explique par le déclin des syndicats et la réduction du salaire minimum qui a eu lieu dans les années 80 aux États-Unis sous l'impulsion du gouvernement Reagan et aussi en Grande-Bretagne avec le gouvernement Thatcher. Je pense que ces changements ont certainement contribué à la baisse des salaires au bas de la distribution des revenus parce qu'il y avait cette espèce de butoir qui était le salaire minimum qui en quelque sorte a sauté. Cela étant, la hausse de l'inégalité a commencé avant la baisse du salaire minimum. Elle a commencé dès le début des années 70. Et donc, je ne pense pas que ce phénomène explique tout ce qu'on observe. Enfin, la baisse de la syndicalisation aux États-Unis et dans de nombreux pays, qui est probablement l'une des causes de la baisse du salaire minimum, puisque le pouvoir politique des syndicats a baissé au cours des années 70 et 80. Donc la baisse de la syndicalisation est probablement elle-même le résultat de changements technologiques. En particulier, on a observé de nouvelles formes d'organisation de l'entreprise qui rendent plus difficile la redistribution en faveur des moins qualifiés à travers la rigidité salariale, c'est-à-dire à travers de la pression syndicale pour faire monter les salaires des moins qualifiés. En effet, du fait de ces changements technologiques, il est plus facile aux plus qualifiés de s'isoler au sein d'entreprises ou d'équipes dont les non-qualifiés sont exclus. Et donc, à partir du moment où il y a moins de coopération entre les qualifiés et les non-qualifiés au sein de la sphère de production, eh bien, il est plus difficile de redistribuer du pouvoir d'achat des qualifiés vers les moins qualifiés à travers les négociations salariales. Et comme, à cause de ces changements dans la structure des entreprises, il était plus difficile d'obtenir des salaires plus élevés pour les moins qualifiés, eh bien, l'incitation à rejoindre les syndicats a bien entendu été plus faible, ce qui explique le déclin des syndicats. Le deuxième point que je voudrais mentionner, c'est que je vais parler de progrès technique biaisé, c'est-à-dire qui favorise les qualifiés et qui nuit aux moins qualifiés, mais il ne faudrait pas croire que ceci est une règle générale et qu'il ne faudrait pas croire que le progrès technique favorise systématiquement les plus qualifiés. Il y a des exemples historiques de progrès technique qui tend à réduire l'inégalité et qui ne favorise pas systématiquement les qualifiés. Par exemple, l'invention de la chaîne de montage par Henry Ford au début du siècle a dévalorisé les qualifications de travailleurs spécialisés relativement bien payés de l'industrie automobile en rendant leur savoir-faire obsolète. Inversement, les salaires des ouvriers et paysans peu qualifiés qui ont été embauchés sur les chaînes de montage ont augmenté relativement à ce qu'ils gagnaient avant dans d'autres secteurs grâce à la productivité accrue permise par cette nouvelle technologie. Je vais maintenant un petit peu discuter les mécanismes économiques du progrès technique biaisé en faveur des travailleurs qualifiés. L'idée de base est relativement simple. On peut considérer, par exemple, qu'il existe un stock de capital. Bon, en ce qui concerne les développements récents, il s'agirait des ordinateurs, du capital informatique, et que ce stock de capital peut être substituable au travail non qualifié. Maintenant, le progrès technique qui se traduit par une hausse de ce stock de capital, ou encore par une hausse de son efficacité, par exemple dû à des progrès dans la capacité et la rapidité des microprocesseurs. Donc une hausse de ce stock de capital technique est alors équivalente à une hausse de l'offre totale de travail non qualifié. Et pour absorber cette hausse, le salaire du travail non qualifié doit baisser. Par ailleurs, si ce capital informatique est complémentaire avec le travail qualifié, par exemple, il y a besoin de gens relativement qualifiés pour réparer les programmes informatiques, faire la maintenance des ordinateurs, etc., eh bien, le salaire des qualifiés va également augmenter. Donc, au bout du compte, la question qui se pose est d'ordre empirique. Est-ce qu'on a observé depuis le début des années 70 des changements technologiques dont on pourrait penser a priori qu'ils soient biaisés en faveur du travail qualifié? Ce que les économistes qui ont étudié la hausse de l'inégalité ont répondu à cette question, c'est qu'effectivement, ils pensaient que... Étant donné les développements de l'informatique et notamment de la micro-informatique dans les années 70, il était raisonnable de penser que les nouvelles technologies de l'information étaient la cause de la hausse de l'inégalité qu'on a observée aux États-Unis. Cela dit, pendant longtemps, on n'a eu aucune preuve empirique directe, ni très convaincante, que c'était bien là la cause de la hausse de l'inégalité. Par exemple, un économiste qui s'appelle Alan Kruger, a montré que les travailleurs qui utilisaient un ordinateur étaient plus payés, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire en tenant compte de leur qualification, etc., étaient plus payés que les autres. Et donc ça pouvait suggérer que les ordinateurs étaient un facteur d'inégalité dans la mesure où ceux qui s'en servaient étaient déjà plus qualifiés avant qu'on leur donne un ordinateur. Cependant, des études plus récentes, notamment par Dinardo et Pichke, ont montré que cette prime à l'utilisation d'un ordinateur ne résultait que de l'attribution de ceux-ci à des travailleurs qui étaient mieux payés de toute façon. Et donc, ce qu'a trouvé Kruger est en fait le résultat d'un biais de sélectivité et n'isole pas du tout l'effet propre de l'usage d'un ordinateur sur la productivité et sur donc, le salaire. Plus généralement, d'un point de vue intuitif, on peut se demander si les catégories de travailleurs les plus directement touchées par la révolution informatique sont vraiment les mieux payées. Par exemple, les tâches de nettoyage, manutention, etc., qui sont les moins rémunérées, sont moins susceptibles d'être effectuées par des ordinateurs que des travaux d'ingénierie ou de comptabilité qui sont le lot de travailleurs relativement qualifiés et relativement bien payés. Et donc ça suggère que ce ne sont sans doute pas les plus pauvres qui font les frais des nouvelles technologies, mais plutôt des professions intermédiaires. Et donc, il n'est pas complètement évident, a priori, que les nouvelles technologies de l'information soient un facteur de détérioration des revenus des plus pauvres. Alors, il y a des travaux relativement récents qui se sont intéressés de près au contenu des tâches que peuvent effectuer les individus et qui ont essayé d'évaluer la mesure dans laquelle les ordinateurs affectent la valorisation de ces tâches. Donc, ce n'est que très récemment, si vous voulez, qu'il y a des travaux qui ont vraiment mis en évidence des effets directs des nouvelles technologies de l'information sur la demande du travail. Alors, l'intérêt de ces travaux, c'est que plutôt que de garder une distinction simpliste entre qualifiés et non qualifiés, eh bien, ils regardent directement ce qui se passe sur le marché du travail en termes de tâches, et ils utilisent une classification qui est plus pertinente pour le problème qui nous intéresse, une classification entre tâches routinières et non routinières. Et bien entendu, la distinction entre tâches routinières et non routinières ne recoupe pas exactement la distinction entre qualifiés et non qualifiés. Par exemple, pour bien jouer aux échecs, il faut un QI élevé, et donc on peut considérer ça comme un travail qualifié. Cependant, c'est une tâche routinière qu'on peut formaliser avec un programme informatique, et de nos jours, les ordinateurs sont capables de battre les meilleurs joueurs. Inversement, traverser une pièce pour ramasser un objet ne requiert pas de qualification particulière, mais c'est une tâche non routinière, et il semblerait qu'à l'heure actuelle, même les robots les plus sophistiqués sont incapables d'accomplir cette tâche. Donc à partir du moment où on approche le problème à travers, si je puis dire, le prisme de la distinction entre tâches routinières et non routinières, eh bien on s'attend à ce que ce soit les tâches routinières qui soient dévalorisées par les nouvelles technologies de l'information, plutôt que les tâches non qualifiées stricto sensu. À la distinction routinière-non routinière, il y répond une autre distinction, qui est la distinction entre les tâches cognitives, c'est-à-dire intellectuelles, et les tâches non cognitives ou encore manuelles. Et à cet égard, on peut s'attendre à ce que les technologies de l'information accroissent la rémunération des tâches cognitives non routinières, mais que pour les tâches manuelles, les choses soient plus compliquées. Donc, en ce qui concerne les tâches cognitives non routinières, il est clair que l'ordinateur crée une demande induite de tâches cognitives non routinières. Résolution de problèmes, mise en place d'algorithmes, debugging, programmation, etc. Inversement, il se substitue aux tâches cognitives routinières, comme le témoigne l'exemple du fait de jouer aux échecs, mais ça concerne également des activités plus pertinentes pour l'économie, comme la recherche bibliographique, l'analyse statistique, etc., qui peuvent être confiées aux ordinateurs. Donc, ce qu'on constate, c'est que l'informatique est substitut aux tâches cognitives routinières et, par contre, complémentaire des tâches cognitives non routinières. Et en particulier, comme les gens qui sont chargés de tâches cognitives non routinières s'appuient eux-mêmes sur des tâches cognitives routinières, eh bien, il y a là encore un biais par lequel l'informatisation peut augmenter considérablement la productivité et donc la rémunération des travailleurs qui se consacrent à ce genre de tâches. Donc, pour résumer, eh bien, on s'attend à ce que les nouvelles technologies de l'information se traduisent par une baisse de la rémunération des tâches routinières, qu'elles soient manuelles ou cognitives, mais sans doute plus en ce qui concerne les tâches cognitives, ainsi qu'à une hausse de la rémunération des tâches cognitives non routinières. Enfin, en ce qui concerne les tâches manuelles non routinières, c'est-à-dire traverser une pièce pour ramasser un objet, eh bien, elles ne sont sans doute pas affectées, en tout cas directement, par l'informatisation. Donc, il y a des travaux récents de Hauter, Levy et Murnane, qui datent de 2001, donc c'est relativement récent, qui ont étudié l'informatisation, les effets de l'informatisation sur la demande de ces quatre types de tâches. À l'aide de données sur l'économie américaine, ils peuvent construire un indice d'intensité de chaque métier, par exemple plombier, si je puis dire, en tâches routinières versus non routinières et en tâches manuelles versus cognitives. Ce qui leur permet par la suite de construire des indices agrégés de la quantité totale de chaque type de tâche utilisée par l'économie. Cette classification ne recoupe pas celle en termes de qualification. Par exemple, l'intensité moyenne d'un emploi en tâches cognitives routinières, faire de la comptabilité par exemple, augmente avec le niveau d'éducation jusqu'à un certain niveau. Mais au-delà de ce niveau, elle diminue au profit des tâches cognitives non routinières. En d'autres termes, à partir d'un certain niveau d'éducation, eh bien, on est utilisé à des tâches qui ne sont plus routinières. Par contre, au faible niveau d'éducation, les gens un peu plus éduqués ont un contenu en tâches cognitives routinières plus important. Donc ces auteurs ont regardé l'évolution de ces indices agrégés qu'ils ont construits et ils ont trouvé qu'il y avait une chute des tâches routinières à partir du début des années 1970, c'est-à-dire à partir précisément de la date à laquelle on observe la hausse de l'inégalité aux États-Unis. En même temps, à partir de cette date, on trouve que la quantité totale de tâches non routinières effectuées aux États-Unis, au contraire, augmente. À la fin des années 1990, l'économie américaine utilisait 50% de moins de tâches routinières cognitives qu'en 1959. Et inversement, elle utilisait 40% de plus de tâches non routinières cognitives qu'en 1959. En ce qui concerne les tâches manuelles routinières, eh bien, elles ont connu un léger déclin, mais beaucoup plus faible que les tâches routinières cognitives. Elles se sont retrouvées à leur niveau de 1959, après avoir légèrement augmenté entre 1959 et 1969. Par ailleurs, ces changements ne sont pas dus à des changements dans la composition sectorielle de l'activité, mais ils ont prévalu au sein de chaque secteur. Donc ça suggère, si vous voulez, que les nouvelles technologies de l'information ont pénétré tous les secteurs d'activité et que ces nouvelles technologies d'information ont réduit la demande pour les tâches cognitives routinières, mais qu'elles ont augmenté la demande pour les tâches cognitives non routinières. Et c'est ce que trouvent ces auteurs qui ont mis en évidence une corrélation positive entre la vitesse d'informatisation d'un secteur d'activité entre 1984 et 1997 et le taux de croissance des tâches non routinières cognitives au sein de ce secteur. Et il y a également une corrélation entre la vitesse de déclin des tâches routinières cognitives et le taux d'informatisation d'un secteur. Donc ces résultats confirment l'hypothèse d'après laquelle ce sont bien les nouvelles technologies de l'information qui explique l'évolution de ces différents types de tâches. Et donc, ça conforte l'idée que ces nouvelles technologies sont, en tout cas en partie, la cause de la hausse de l'inégalité observée aux États-Unis depuis 1970. Et donc, ces auteurs impliquent environ qu'un tiers de la hausse de la prime à l'éducation aux États-Unis peut être expliquée par cette redistribution de la charge de travail entre tâches routinières et tâches non routinières. Maintenant, je voudrais parler d'autres effets un peu plus complexes du progrès technique sur l'inégalité. Ce que je viens de décrire, en fait, c'est un effet direct, c'est-à-dire qu'il y a un changement de la technologie qui accroît la productivité des gens bien payés et qui réduit la productivité des gens mal payés, ce qui donc se traduit automatiquement par une augmentation des inégalités. Il y a également d'autres effets qui sont un peu plus subtils. Premier effet, l'ajustement du capital. Considérons par exemple ce qui se passe si la différence entre qualifié et non qualifié ne tient pas aux tâches qu'il mette en œuvre de manière intrinsèque, mais qu'elle tient essentiellement au fait que les qualifiés soient plus à même de s'adapter et d'apprendre les nouvelles technologies. Donc une différence d'adaptabilité, si vous voulez. À ce moment-là, on s'attend à ce que, lorsqu'on introduit une technologie qui est supérieure, qui est plus productive, eh bien, les plus qualifiés travailleront avec celle-ci, parce qu'il est relativement peu coûteux pour eux de s'adapter, tandis que les moins qualifiés, eux, vont continuer à travailler avec l'ancienne technologie. Et ceci, c'est simplement le résultat des coûts d'adaptation plus élevés des non-qualifiés. À ce moment-là, on s'attend a priori que le salaire des qualifiés augmente, parce qu'ils travaillent avec une technologie plus productive, mais on ne s'attend, donc il y a un effet inégalitaire, mais on ne s'attend pas pour autant à ce que le salaire des non-qualifiés diminue, parce qu'ils vont continuer à faire ce qu'ils faisaient auparavant, c'est-à-dire travailler avec l'ancienne technologie. Donc, dans ce cas, l'introduction d'une nouvelle technologie accroît l'inégalité, mais en tout cas, elle ne devrait pas se traduire par une baisse du salaire en termes absolus des moins qualifiés, qui est pourtant ce que l'on a observé aux États-Unis au cours des années 70 et 80. En fait, si l'on prend en compte la mobilité de ressources telles que le capital, eh bien, on peut montrer que ce phénomène est également capable de conduire à une baisse de la rémunération des moins qualifiés. Le mécanisme est le suivant. Comme la nouvelle technologie est supérieure à l'ancienne, eh bien, le rendement du capital est plus élevé dans cette nouvelle technologie. Et donc, cette nouvelle technologie aura tendance à attirer les nouveaux investissements. Et ceci se traduit également par une hausse du rendement du capital dans l'ensemble de l'économie, c'est-à-dire du taux d'intérêt réel, ce qui incite au désinvestissement dans l'ancienne technologie, parce que le capital qui reste dans l'ancienne technologie n'est plus rentable, vu qu'il y a des opportunités d'investissement bien supérieures dans la nouvelle technologie. Cette baisse du capital dans l'ancienne technologie va se traduire par une baisse de la productivité des travailleurs les moins qualifiés qui continuent à travailler avec l'ancienne technologie parce qu'il y a moins de capital, moins de machines pour fixer les esprits disponibles pour ces travailleurs. Et donc on voit que même si à capital constant dans l'ancienne technologie, les salaires des travailleurs les moins qualifiés ne devraient pas baisser en termes absolus parce qu'ils continuent à faire ce qu'ils faisaient avant, eh bien en fait, la réallocation du capital vers les nouvelles technologies qui sont plus rentables au détriment des anciennes se traduit en fin de compte par une baisse en termes absolus du salaire des travailleurs qui n'ont pas pu s'adapter et se redéployer vers les nouvelles technologies. À cet égard, il y a des travaux récents, notamment de Caselli, datant de 1999, qui ont mis en évidence ce phénomène de manière empirique, puisque cet auteur a montré que les progrès des nouvelles technologies de l'information au milieu des années 70 se sont traduits par une plus grande dispersion des intensités capitalistiques entre secteurs. Donc les nouveaux secteurs se sont trouvés avec un ratio capital-travail élevé, et les anciens secteurs ont vu baisser leur ratio capital-travail. Donc il y a eu une plus grande dispersion des ratios capital-travail entre secteurs. Ce phénomène est tout à fait cohérent avec celui de réallocation du capital vers les nouveaux secteurs au détriment des anciens secteurs que je viens d'exposer. Deuxième type de mécanisme dont je voudrais parler brièvement, ce sont les effets transitoires du progrès technique asymétrique. Si le progrès technique s'applique de manière uniforme dans tous les secteurs, eh bien, ça se traduit par une hausse générale du salaire de tout le monde et des niveaux de vie. Si le progrès technique s'applique dans un secteur, mais pas dans un autre secteur, eh bien, ceci peut conduire à une baisse de la demande de travail dans le secteur où le progrès technique vient de s'appliquer. Ce phénomène va se produire s'il existe des complémentarités fortes, par exemple dans la demande, entre certains secteurs enfin, entre le secteur où le progrès technique s'applique et le reste de l'économie. Si ces complémentarités sont fortes, alors la demande ne va pas pouvoir absorber l'excès d'offres que permet le progrès technique dans le secteur considéré à emploi donné. Et donc, pour rétablir l'équilibre, il va falloir que l'emploi se réalloue vers le reste de l'économie. Donc, par exemple, si la productivité dans le secteur automobile est multipliée par 5, il est bien évident que la demande d'automobile ne va pas pouvoir absorber cette multiplication par 5 de la productivité. Donc, ce qui va se passer, c'est que le prix des automobiles, le prix relatif des automobiles va baisser, et que ceci va se traduire également par une baisse du salaire relatif des gens qui travaillent dans l'automobile. Ces phénomènes vont se traduire par une réallocation du travail hors du secteur automobile vers les autres secteurs, jusqu'au point où on a rétabli l'équilibre et où, grâce au progrès dans l'automobile, le niveau de vie et les salaires ont augmenté dans la totalité de l'économie. Mais à court terme, ce qui se passe, c'est qu'à cause de ce phénomène de la demande qui ne peut pas absorber l'excès d'offres d'automobiles, eh bien, il y a une chute du salaire dans le secteur de l'automobile relativement au reste de l'économie. Ainsi, le progrès technique asymétrique, en présence de complémentarité, tend à conduire à une hausse transitoire de l'inégalité entre secteurs. Mais cette hausse n'est que transitoire. Elle devrait disparaître au bout d'une période d'ajustement de quelques années. Troisième effet que je voudrais mentionner, c'est qu'on pourrait appeler l'effet superstar. Les nouvelles technologies de l'information engendrent également des effets de superstar. Avant l'invention de la télévision, chaque ville moyenne avait des artistes locaux. La télévision a permis aux gens d'avoir un accès aux artistes les plus talentueux, en tout cas du point de vue des goûts des téléspectateurs, au niveau national, ce qui a réduit les artistes locaux au chômage ou les a contraints à changer de métier. Inversement, ces artistes les plus talentueux, qui en l'absence de la télévision auraient été les meilleurs, mais auraient simplement desservi un marché purement local, ces artistes ont pu décupler leurs revenus grâce à une augmentation de la taille du marché qu'ils couvrent. Et quand je dis décupler, je suis probablement très en deçà de la réalité. Donc cet exemple illustre comment les progrès dans les nouvelles technologies de l'information permettent aux agents les plus talentueux, ou plus généralement aux entreprises les plus efficaces, d'accroître leurs revenus au détriment des autres en s'emparant de la totalité ou de la quasi-totalité du marché. Le développement de réseaux comme Internet permet aux utilisateurs d'accéder aux meilleurs produits et technologies au niveau mondial, alors qu'auparavant, ils étaient confinés au niveau local. Il en résulte des rentes considérables pour les entreprises les plus efficaces et les individus les plus talentueux, tandis que les agents les moins performants sont déplacés vers d'autres activités et peuvent s'appauvrir, même s'ils ne sont que marginalement inférieurs. Pour en revenir à mon exemple des artistes, si le meilleur artiste s'empare de la totalité du marché à travers la télévision, eh bien l'artiste numéro 2 est obligé de cesser son activité, même s'il n'est que marginalement moins talentueux que le numéro 1. Et donc on pourrait se demander s'il n'y a pas, avec ce développement des nouvelles technologies de l'information et des réseaux, une dynamique inégalitaire qui pourrait nous mener vers une société où une oligarchie de beautiful people, milliardaires, confisquerait l'activité économique à son profit. Je pense qu'on peut en douter. En fait, comme vous vous en êtes rendu compte, j'ai donné un exemple qui est quand même très spécifique au monde du spectacle, où effectivement ces effets de superstar sont très forts et où les producteurs qui sont évincés, comme nos artistes de seconde catégorie, ne gagnent rien au fait que les meilleurs s'emparent de la totalité du marché. Cela étant, il est bien évident que ce type de secteur couvre un segment relativement restreint de l'activité économique. Si l'on considère d'autres types d'activités, eh bien, on aboutit à des conclusions légèrement différentes. D'une part, ceux qui voient leur part de marché réduite parce qu'ils ne sont pas les meilleurs, bénéficient du fait que, en échange, ils ont un accès moins coûteux à ce qu'il se fait de mieux. Donc, par exemple, au lieu de parler d'artistes locaux, si je considère des concepteurs de programmes informatiques, eh bien, on peut penser qu'il y a un phénomène similaire. Par exemple, la diffusion d'Internet permet aux meilleurs programmes de s'imposer et aux meilleurs concepteurs de rafler le gros du marché, la meilleure part de marché. Les autres concepteurs de programmes informatiques doivent se recycler. Donc on a un peu le même phénomène qu'en ce qui concerne les artistes. Cependant, il y a une grosse différence qui est que dans la mesure où ils restent dans l'informatique, eh bien ce sont également des utilisateurs de programmes informatiques. Et donc, dans les activités informatiques dans lesquelles ils vont se recycler, ils vont bénéficier de l'accès peu coûteux aux meilleurs programmes que permet le développement des réseaux. Et donc, et ceci augmente leur productivité et donc leur salaire. Donc, l'effet superstar en ce qui concerne une activité plus pertinente sur le plan économique comme celle que je viens de décrire n'est pas uniquement inégalitaire. Il y a un aspect égalitaire dans la mesure où les gens les moins doués peuvent accroître leur productivité en ayant accès, en utilisant ce qu'il se fait de mieux. On peut également mettre en lumière une autre conséquence égalisante du développement des réseaux, à savoir que quand la taille du réseau devient très importante, eh bien on peut mettre les agents les plus performants en concurrence les uns avec les autres au sein du même réseau. Et ceci, si la concurrence joue correctement, ce qui n'est pas tout à fait évident, mais on peut espérer qu'elle joue quand même dans une certaine mesure, ceci tendrait à réduire leur rémunération. Donc j'ai moi-même travaillé sur ce type de problème et j'ai établi que si l'on prenait en compte ces effets dans un modèle théorique, eh bien cela suggérait que l'inégalité augmente bel et bien lorsque les technologies de l'information s'améliorent, mais seulement jusqu'à un certain point. Au-delà de ce point, une amélioration des technologies de l'information conduit, au bout du compte, à une diminution de l'inégalité. Finalement, je voudrais également mentionner qu'il faut faire la différence entre producteur de savoir et consommateur de savoir, et que les progrès dans les nouvelles technologies de l'information n'affectent pas de même façon les producteurs de savoir et les consommateurs de savoir. Comme on vient de le voir, au sein d'un métier donné, les nouvelles technologies de l'information tendent à favoriser les individus les plus talentueux et à réduire le salaire des moins talentueux. Donc si on se limite aux individus de ce métier donné, par exemple artistes ou concepteurs de programmes informatiques, eh bien, elles sont inégalitaires. Cela étant, il peut s'agir d'un ensemble de travailleurs qui eux-mêmes sont relativement bien payés relativement au reste de l'économie. Et si c'est le cas, alors la réduction de salaire des moins performants parmi cet ensemble de travailleurs tend à réduire l'inégalité entre ceux-ci et les couches les moins favorisées de la société. Bon, par exemple, je voudrais citer un exemple qui va dans ce sens, qui est qu'il semblerait qu'aux États-Unis, de nombreuses entreprises, notamment des hôpitaux, ont économisé beaucoup d'argent en frais de consultants parce qu'ils ont remplacé ces consultants par des programmes informatiques, consultants en comptabilité, etc. Il est bien clair que les consultants qui ne sont plus embauchés par ces hôpitaux, eh bien, sont obligés de changer d'activité. Inversement, les consultants qui, eux, ont été embauchés pour concevoir ces programmes informatiques ont probablement vu leurs revenus augmenter considérablement. Mais en ce qui concerne les consultants qui ne sont plus employés, il est clair que c'était un métier relativement bien rémunéré, et donc que la baisse de leurs revenus contribue en fait à une baisse de l'inégalité générale et non pas à une hausse. En d'autres termes, si l'on prend en compte le fait que un grand nombre de travailleurs qui sont déplacés, qui sont dévalorisés par l'introduction des nouvelles technologies de l'information sont en fait des travailleurs, des producteurs de savoir relativement bien payés, eh bien l'effet net de ces technologies sur l'inégalité n'est plus du tout clair, il n'est plus du tout évident qu'il y ait une hausse générale de l'inégalité. Par ailleurs, au bas de l'échelle de revenus, il y a des travailleurs qui ne sont pas des producteurs de savoir, qui sont plutôt des consommateurs de savoir. Par exemple, des gens qui vont utiliser des traitements de texte et donc dont la productivité va se voir augmenter parce que le traitement de texte qu'ils utilisent est plus performant, plus facile pour l'utilisateur, etc. Si l'on considère ce fait, eh bien, l'introduction des nouvelles technologies de l'information rend le savoir plus facile à utiliser, directement ou indirectement. Indirectement, c'est-à-dire à travers des programmes informatiques qui sont plus performants, par exemple, comme les traitements de texte. Et dans ce cas, on s'attend à ce que la hausse des... les améliorations dans les nouvelles technologies de l'information aient un effet égalisant au bas de la distribution des revenus. Et de fait, certains travaux récents ont montré que l'informatisation tend à égaliser les revenus au bas de l'échelle alors qu'elle accroît l'inégalité pendant les hauts salaires. Si l'on en croit ces travaux, à ce moment-là, il faudrait trouver d'autres causes que les nouvelles technologies de l'information pour la baisse absolue du revenu des moins qualifiés dans les années 70 et 80 aux États-Unis. Alors, j'ai beaucoup parlé des États-Unis, et ce que j'ai dit des États-Unis est aussi valable pour la Grande-Bretagne, qui a connu des développements similaires, mais ça n'est pas valable pour l'Europe continentale, et certainement pas pour la France. Cette hausse de l'inégalité salariale n'a pas été observée en Europe continentale, ou en tout cas beaucoup moins, et en France, l'inégalité salariale s'est même réduite. Il est tentant d'attribuer ces développements aux rigidités relatives dans la fixation des salaires, comme le SMIC ou les grilles de salaire négociées collectivement, qui empêcheraient que les chocs technologiques se traduisent par une hausse de l'éventail des salaires. D'après cette hypothèse, les chocs technologiques qui ont conduit aux États-Unis à la hausse de l'inégalité se seraient traduits en Europe par une hausse du chômage des moins qualifiés. C'est-à-dire que comme les modes de fixation des salaires empêchent le salaire relatif des moins qualifiés de baisser, eh bien, au lieu d'observer une hausse de l'inégalité, on observe une hausse du chômage et surtout une hausse du chômage des moins qualifiés. Cette hypothèse n'est pas totalement satisfaisante parce qu'en fait, on a observé une hausse du chômage dans toutes les catégories de travailleurs, pas seulement les non qualifiés. Et en particulier, on n'a pas observé de baisse du chômage pour les plus qualifiés, ce à quoi on serait en droit de s'attendre si cette hypothèse était valable. En fait, on tend à observer qu'il y a un retard de l'Europe par rapport aux États-Unis dans l'adoption de nouvelles technologies de l'information. Et donc, si ces nouvelles technologies sont inégalitaires, eh bien, peut-être qu'il y a un lien entre le fait que l'Europe connaît un retard dans ces technologies et le fait que l'on n'ait pas observé cette hausse de l'inégalité en Europe. Et là, je me réfère exclusivement à l'Europe continentale, parce que la Grande-Bretagne, elle, a connu une hausse de l'inégalité. Donc, par exemple, la part de la valeur ajoutée dans les nouvelles technologies de l'information est de 8,7% aux États-Unis, contre 6,4% dans l'Union européenne et 5,3% en France. Le nombre de sites Internet pour 1000 habitants est de 275 en 2001 aux États-Unis, de 100 dans l'OCDE, de 53 dans l'Union européenne et de 27 en France. Il y a donc un certain retard, enfin un très net retard de l'Europe et encore plus de la France dans l'adoption de ces nouvelles technologies. Il existe des travaux récents de Baudiri et Green qui essayent d'expliquer ce retard de l'Europe. Et l'explication, l'argument de Baudiri et Green est le suivant. On observe que le sentier d'accumulation de capital physique et humain n'est pas le même en Europe qu'aux États-Unis. Les États-Unis ont relativement peu investi en capital physique. Par contre, leur effort d'éducation qui a commencé vers les années 60 s'est vigoureusement poursuivi jusqu'à maintenant, et de sorte que le niveau d'éducation et donc le capital humain aux États-Unis est assez élevé. L'argument de Baudiri et Green, c'est que les nouvelles technologies de l'information sont relativement intensives en capital humain, en éducation, et par contre, elles demandent relativement peu de travail non qualifié. Plus la pénétration de ces nouvelles technologies est forte, plus la demande de travail peu qualifié va être faible, et plus l'inégalité va augmenter. Par ailleurs, plus une économie a une dotation en capital humain élevée, plus elle va avoir tendance à adopter largement ces nouvelles technologies de l'information, puisque celles-ci requièrent effectivement du capital humain. Et ça, c'est ce qui se serait passé aux États-Unis, d'après Baudiri et Green. Inversement, si on regarde l'Europe, et là je parle plutôt de l'Allemagne qui est le pays que ces auteurs ont regardé, eh bien on constate une moindre adoption des nouvelles technologies de l'information. On constate que l'inégalité n'a pas augmenté, et on constate enfin que le sentier d'accumulation de capital humain et de capital physique n'est pas du tout le même qu'aux États-Unis. D'une part, l'effort d'éducation a été moindre qu'aux États-Unis, et donc l'accumulation de capital humain a été moindre. D'autre part, le taux d'épargne et le taux d'investissement en capital physique a été plus élevé qu'aux États-Unis, et donc le déséquilibre du sentier d'accumulation qui favorisait le capital humain au détriment du capital physique qu'on a observé aux États-Unis ne s'est pas observé en Allemagne. À cause de cette différence dans l'accumulation de ces deux facteurs de production, eh bien, comme l'Allemagne a relativement plus de capital physique et moins de capital humain que les États-Unis, elle aura tendance à moins adopter les nouvelles technologies de l'information qui sont intensives en capital humain et peu intensives en capital physique que les États-Unis. Et donc, ça serait, d'après ces auteurs, la différence d'accumulation de capital physique et de capital humain qui expliquerait le fait que l'Allemagne ait moins adopté les nouvelles technologies de l'information que les États-Unis. L'une des conséquences de cette moindre adoption des nouvelles technologies de l'information en Allemagne, c'est que l'inégalité n'a pas augmenté en Allemagne parce que la demande de travail peu qualifiée est restée relativement élevée à cause du fait que l'Allemagne utilisait encore de manière relativement importante les anciennes technologies. Cette explication est très séduisante parce qu'elle explique de manière assez unitaire la totalité des faits qu'on observe, c'est-à-dire les différences d'adoption des nouvelles technologies ainsi que l'évolution de l'inégalité. Par ailleurs, les auteurs ont développé des tests économétriques sophistiqués de leur hypothèse et ont montré qu'elles cadraient de manière surprenante avec les données. Cela étant, je pense qu'il y a d'autres effets associés à la moindre adoption des nouvelles technologies de l'information par l'Europe. En particulier, il est raisonnable de penser que les distorsions induites par la réglementation du marché du travail et aussi par la réglementation des marchés des biens, par exemple la moindre concurrence dans des secteurs clés comme les télécommunications, les rigidités du marché du travail qui découragent la prise de risque, le sous-développement des marchés financiers et du capital risque, tous ces facteurs peuvent également expliquer pourquoi l'Europe n'a pas connu la même hausse de l'inégalité que les États-Unis. Mais contrairement à l'argument que je viens de mentionner, qui ne fait intervenir que des taux d'épargne différents, ces arguments n'impliquent pas que ce soit une bonne chose d'avoir moins investi dans les nouvelles technologies que les États-Unis. D'après l'argument de Baudiri et Green, finalement, Il est optimal pour l'Europe de moins adopter les nouvelles technologies parce qu'on a accumulé plus de capital physique et moins de capital humain. Et donc, étant donné cette structure d'accumulation, il est logique de moins investir dans les nouvelles technologies. Mais si l'on considère que l'une des raisons pour lesquelles on investit moins dans les nouvelles technologies, c'est qu'il y a des distorsions sur les marchés induites par la réglementation qui font qu'on a tendance à rester dans les anciennes technologies, à ce moment-là, il y a moins lieu de se féliciter du fait que l'inégalité est peu augmentée en Europe, parce qu'au bout du compte, c'est une conséquence du retard technologique de l'Europe qui serait lui-même l'effet de ces réglementations. Donc, comme je n'ai plus beaucoup de temps, eh bien, je vais conclure sur ce point. Si vraiment ce sont ces nouvelles technologies qui sont la cause de l'inégalité, et si le fait qu'elle n'ait pas augmenté est dû au fait que le fait qu'elle n'ait pas augmenté en Europe est dû au fait qu'on ait moins adopté ces technologies, eh bien, je ne suis pas sûr qu'on puisse se féliciter de cet état de fait pendant très longtemps. Ce qu'on a observé au cours de la deuxième moitié des années 90, c'est un décollage spectaculaire des États-Unis en termes de croissance par rapport à l'Europe. Sur 20 ans, les États-Unis ont creusé l'écart par rapport à l'Europe de 10 points. Ils étaient 20% plus riches que les Européens en 1980, par tête, et maintenant ils sont 30% plus riches que les Européens. Et donc, ce qu'on est en droit de craindre, c'est que si l'Europe veut rattraper les États-Unis de ce point de vue-là, elles doivent accepter que le prix à payer pour ça soit la hausse de l'inégalité salariale, qui, d'après nos observations, a été associée à ces nouvelles technologies. Et ça me conduit à être un peu sceptique sur des politiques de redistribution ou des politiques de rigidité salariale qui essaieraient de s'opposer à ce phénomène. Parce que, non pas que ces politiques ne fonctionneraient pas, elles s'opposeraient effectivement à la hausse de l'inégalité, mais par là même, elles s'opposeraient aussi à l'adoption des nouvelles technologies. Si les États-Unis continuent à creuser cet écart, il me semble extrêmement difficile de continuer à mettre en œuvre de telles politiques sur le long terme. Et ça me conduit à ma conclusion et à ma dernière recommandation, qui est en fait une banalité, mais bon, tant pis, qui est que si l'on veut combattre les effets inégalitaires du progrès technique, eh bien, la redistribution ne peut servir que de manière transitoire. Et il est probablement plus productif de mettre en œuvre une politique éducative qui permette de rendre moins coûteux l'adoption des nouvelles technologies par les travailleurs les moins payés.
Et je m'arrêterai là. Merci. Merci.
Bonjour. Vous évoquez le retard de l'Europe dans l'adoption des nouvelles technologies. J'ai l'impression que ce retard est plutôt de 2-3 ans, enfin autour de 2-3 ans. On aurait déjà dû voir apparaître aujourd'hui les inégalités salariales dont vous parlez, qui sont apparues aux États-Unis dans les années 70.
Ben, on ne les voit pas parce qu'il y a les modes de... Ce qu'on voit, c'est un mélange de beaucoup de choses, quoi. Il y a des chocs technologiques qui, effectivement, sont inégalitaires. Là-dessus, il y a des modes de fixation des salaires qui empêchent l'éventail des salaires de s'élargir. Là-dessus, il y a quand même eu une expansion économique extrêmement forte qui fait qu'au cours des 5 dernières années, c'est allé mieux pour tout le monde en Europe, si vous voulez. Donc, il n'est pas tout à fait... Enfin, partout où les salaires se fixent librement, comme dans les pays anglo-saxons, on a observé cette hausse de l'inégalité. Dans pas mal de pays européens, on l'a observé, mais elle a été très modérée. En France et en Allemagne, il n'y en a pas eu.
Vous avez fait votre conférence sur des bases économistes par rapport à des termes de, disons, de productivité. Quand on regarde les inégalités sociales et salariales, en fait, ceux qui sont en bas de l'échelle sont souvent des travailleurs sociaux, c'est-à-dire pour des métiers où il y a peu de technologies y ajoutées, si je puis dire, et en particulier où il y a énormément de femmes. Je pense tous les métiers qui parlent, disons, plutôt d'entretien que de productivité. Et donc, je me demande comment on tient compte de ces métiers-là par rapport à à l'influence des technologies par rapport au marché du travail, parce que de façon très concrète, on se rend compte qu'il y a beaucoup de métiers où on a finalement plus d'offres d'emploi que de gens qui viennent y travailler, précisément parce que ce sont des métiers, à valeur humaine ajoutée et qui sont des vrais besoins sociaux. Et puis, alors moi, il y a un problème qui me gêne toujours, c'est quand on parle du retard par rapport aux États-Unis, parce que je crains que s'insinue par là aussi des modèles. Enfin, moi, en tant que femme et pour avoir été dans les mouvements féministes, on nous prend souvent comme modèle des règles du jeu qui sont toujours masculines, etc. Donc, moi j'ai envie de réfléchir un peu davantage sur ce qu'est l'Europe et ce que sont les États-Unis par rapport à ces modèles, j'ai envie de dire, productivistes.
Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à vos questions. En ce qui concerne la première, si vous faites référence à des services, des travaux genre services à domicile, je dirais qu'à court terme, comme ils ne sont ni producteurs ni consommateurs de savoir, leur rémunération n'est pas affectée par les nouvelles technologies. Maintenant, à long terme, ils finissent par en bénéficier parce que parce qu'il y a une demande accrue, les gens étant plus riches, ils sont prêts à payer plus pour ces services. Donc in fine, leur rémunération est elle-même indexée sur la croissance générale de l'économie, ce qui est à peu près ce qu'on observe. En ce qui concerne votre deuxième remarque sur les féminismes, je ne suis vraiment pas un expert là-dessus. Cela dit, opposer féminisme et productivisme me paraît un peu abusif, parce que les États-Unis sont productivistes plus que nous, mais ils sont aussi plus féministes. La part de femmes dans des postes de décideurs aux États-Unis est plus importante qu'en France et beaucoup plus importante qu'en Allemagne. Donc cette opposition entre productivisme et féminisme, je n'en vois pas trop le fondement.
Vous avez mentionné les États-Unis, l'Europe, le cas un petit peu à part de la Grande-Bretagne. Les exemples que vous avez donnés en reprenant des thèses tendent effectivement à confirmer ce que vous dites, à savoir que sur le court terme, l'adoption de nouvelles technologies accroît les inégalités, mais que sur le long terme, elle favorise la hausse générale du niveau de vie, si j'ai bien compris. Mais si on prend l'exemple que vous n'avez pas mentionné du Japon, on a un peu une remise en cause de cette thèse, au moins sur le court terme, parce qu'on a une forte adoption des nouvelles technologies. En même temps, depuis 10 ans, le Japon est dans une situation de récession, enfin depuis une récession qui est récente, mais disons dans une situation économique grave. Et donc là, moi, je m'interroge, quoi. Par rapport à ce cas qui serait peut-être unique. Il y a d'autres plans sur lesquels le Japon est unique, ça en serait un de plus. Mais là, c'est la première interrogation, et je reste sur un petit peu le même thème pour vous poser une seconde question. Est-ce que, si on adopte la thèse qui est votre conclusion, l'équilibre finalement entre un capital humain et un capital physique, simultanément à une réduction du temps d'adoption des technologies, peut contribuer à une évolution, je dirais, à une croissance toujours comment dire, homogène des, du niveau général avec une non-croissance des inégalités.
Alors, première question sur le Japon. Enfin, d'après les gens qui ont étudié ça, la récession au Japon est un phénomène de type keynésien, de type grande dépression, qui n'est pas lié au développement technologique au Japon. Par ailleurs, quand on dit que le Japon a énormément adopté les nouvelles technologies, c'est un peu une exagération. C'est un pays qui, effectivement, est un pays du tiers-monde après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on est ébahi quand ils deviennent un pays riche. Mais ça reste quand même un pays moins productif que les États-Unis et qui a moins adopté les nouvelles technologies que les États-Unis. Alors, en ce qui concerne votre deuxième question, si vous voulez, d'après les auteurs, donc Baudry et Green que j'ai mentionnés, la réponse est oui. C'est-à-dire que d'après ces auteurs, effectivement, si on arrive à accumuler du capital physique de manière équilibrée par rapport au capital humain, eh bien, on devrait éviter la hausse de l'inégalité. Absolument, absolument. Mais ce que je pense et ce que je soupçonne, c'est qu'il y a quand même des effets très forts de croissance associés aux technologies les plus modernes, et que à cause de ça, eh bien, on continue à croître, mais on finit quand même par croître moins vite que les États-Unis. Et donc, je ne suis pas sûr que ça soit soutenable à long terme. Cela étant, le débat sur ce point reste totalement ouvert.
Simplement, je voulais vous demander, vous avez axé votre exposé sur les inégalités entre salariés, mais vous n'avez pas du tout parlé des inégalités dans la société, notamment de ceux qui sont exclus du marché du travail, les chômeurs et les retraités. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus ?
Oui, alors ça c'était, si vous voulez, le thème de mon intervention étant progrès technique et inégalité, je me suis effectivement limité à cette source d'inégalité. Par ailleurs, regardez donc l'inégalité de revenus des ménages, c'était ce qui inclut les retraités, les chômeurs, etc., conduit à des conclusions qui sont plus floues et plus matières à controverse. Par exemple, si on regarde les ménages, c'est moins évident qu'aux États-Unis, l'inégalité est augmentée, parce que les ménages pauvres qui ont vu leur salaire horaire baisser ont pu compenser ça en augmentant leurs heures travaillées. Ils ont pu compenser ça en ayant deux membres du ménage qui travaillent au lieu d'un seul, par exemple. Et tout ça, ça conduit ça leur permet en fait de s'adapter et de réagir à la baisse du salaire horaire. Et donc, quand on regarde les ménages, on a moins l'impression que l'inégalité augmente aux États-Unis. En ce qui concerne la France, je dirais que si on regarde l'inégalité entre ménages, ça nous rapproche des États-Unis. La différence entre la France et les États-Unis en termes d'inégalité entre ménages est moins forte qu'en termes d'inégalité salariale, notamment parce que à cause du SMIC et de choses comme ça. Et il y a même certaines données qui tendent à montrer que l'inégalité serait plus forte en France qu'aux États-Unis. Mais bon, étant donné, si vous voulez, le thème de mon intervention, je me suis effectivement limité à l'inégalité salariale parce que c'est l'indicateur le plus pertinent pour juger de l'effet du progrès technique sur la distribution des revenus à travers la demande de travail.
Vous avez parlé donc des nouvelles technologies. Je pense que les entreprises françaises sont quand même très performantes et utilisent les technologies au maximum. Sans cela, elles ne pourraient pas vivre sur le marché européen ni mondial. D'autre part, est-ce que ces inégalités, qui seraient peut-être moins importantes, à mon avis, en France qu'aux États-Unis au point de vue salaire, ne sont pas maintenues par un système social très performant par rapport aux États-Unis ? Et est-ce que, justement, ce système social ne risque pas de faire imploser notre économie dans l'avenir si on regarde les gros problèmes posés par la mondialisation, à savoir que les entreprises n'hésitent plus à quitter le territoire pour s'installer autre part.
En ce qui concerne les performances des entreprises françaises, moi je ne peux que me fonder sur les données, agrégées de l'OCDE, enfin de l'OCDE ou d'autres instituts qui produisent ces données. Il est clair que dans toute économie, on trouve des entreprises très performantes. La question, c'est quand on met tout ça ensemble, est-ce que globalement, on est plus ou moins productif que nos compétiteurs ? À cet égard, il semble que quand même la France soit lentement en perte de vitesse par rapport à d'autres pays. Par exemple, si on compare avec la Grande-Bretagne, au début des années 80, la productivité par tête était nettement plus forte en France et on était 20% plus riche que les Britanniques. Au cours des années 80, la productivité a décollé en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, et en l'an 2000, eh bien, on est légèrement plus pauvre ou peut-être légèrement plus riche. Enfin, on est à peu près à égalité avec les Britanniques qui ont comblé leur écart. Et si on extrapole, eh bien, dans 20 ans, c'est nous qui serons 20% plus pauvres que les Britanniques. Donc, en ce qui concerne le rôle du système social, c'est un peu ce que j'avais tendance à dire. Puis c'est aussi ce que je n'ai pas dit dans la dernière partie de mon exposé, que je n'ai pas eu le temps de faire. Mais effectivement, une des questions qu'on a en droit de se poser, c'est est-ce que l'inégalité n'est pas le prix à payer pour la croissance ? En particulier parce que pour avoir de la croissance, il faut de l'innovation, il faut rémunérer les gens les plus talentueux, les gens qui ont des idées. Et si on a un système redistributif qui les appauvrit relativement à ce qu'ils pourraient gagner ailleurs, eh bien, ils vont finir par s'en aller. J'ai tendance à penser que c'est le cas, ce qui m'avait conduit à ma conclusion que les seules politiques redistributives viables dans le long terme sont effectivement des politiques d'éducation qui investissent directement dans le capital humain des moins qualifiés.
Bien, merci beaucoup.